Là, une limousine du grand hôtel attendait Fabrice. L'établissement n'avait pas tardé à répondre positivement à sa lettre. Il lui déroulait même le tapis rouge, proposant de le loger naturellement, gratis, dans, évidemment, la chambre Marcel Proust. Il assurait, bien entendu, le couvert en plus du gîte. Lisant cette précision, Fabrice ne put s'empêcher de relever qu'elle est doublement impropre, puisque, et d'une, ce couvert-là n'est pas celui de la table, mais, et de deux, un synonyme de gîte, l'expression offrant ainsi un pléonasme de la plus belle eau. Dans sa réponse, il signala qu'il prendrait tous ses repas dans sa chambre, soucieux de préserver sa sérénité en sortant le moins possible. Il entra discrètement au grand hôtel par la porte tambour, plus précisément nommée porte revolver, de l'anglais revolving door. Il n'avait d'ailleurs pas besoin de se cacher. Sa silhouette ni son visage n'étaient familiers. Après s'être promené sur la digue le soir, par fidélité à son auteur plus que par goût, et certainement pas par superstition, il se fit monter une langouste et une glace au café et à la pistache, comme servi un soir à Swann par les parents du héros. Il se coucha tôt et dormit d'une traite. Les amateurs seraient-ils au rendez-vous ce lundi 15 décembre? Chez tante Léonie, Fabrice avait eu en face de lui des habitués de Proust. Ici, c'était plus ouvert. Des profanes viendraient sans doute, ne serait-ce qu'à cause du buzz, et non pour le cadre au cœur de l'univers proustien, Balbec étant à Cabourg, ce que Combray est à Illier, et son grand hôtel au grand hôtel. La délocalisation en Normandie ne les avait pas découragés. Du bord de mer, des jardins fleuris, de la promenade, une petite foule convergeait vers l'énorme pâtisserie hôtelière. Les premiers franchirent la porte dès 6 heures et se dirigèrent vers la salle Marcel Proust. C'est la plus vaste du grand hôtel, avec ses 250 places dans sa configuration théâtre. À 8 heures, elle était comble et l'on dut installer des écrans et des haut-parleurs dans d'autres espaces. Le bon docteur Speck, objet de toutes les attentions de l'équipe, s'était installé en bonne place. Fabrice Pelletier semblait dispo quand il sortit de la chambre historique. Il s'engagea dans les couloirs où il crut sentir la présence de son héros et choisit de descendre à pied. Les spectateurs se levèrent et l'applaudirent à tout rompre quand il entra, fluet sous les 6 mètres du plafond. Cette image de fragilité lui plaisait. S'il s'interrogeait sur la justesse de son ton, il savait qu'il ne devait pas jouer la performance physique. Sans chercher à ressembler à Marcel Proust, c'eût été grotesque. Il misait sur l'économie de gestes et de déplacements pour incarner un homme frêle, malade, inquiet, au souffle menacé par un asthme chronique, sans cesse sujet à la toux et aux étouffements. Ma mère, quand il fut question d'avoir pour la première fois monsieur de Norpois, et c'était parti pour une semaine et 372 pages dans l'ombre des jeunes filles en fleurs. Après le professeur Cottard et ses désolants jeux de mots, Proust livre un personnage à la brillante carrière, mais au parler désolant, le marquis de Norpois. Vieux monsieur distingué aux yeux bleus et à la haute taille. Grâce à lui, le jeune Marcel découvre enfin la Berma dans un rôle qui la rendit célèbre, Phèdre. Suit le récit du dîner offert à l'ancien ministre plénipotentiaire chez les parents du héros qui régala les auditeurs. Parlons littérature. Norpois en vient à évoquer le fils d'un ami qui a écrit un ouvrage relatif au sentiment de l'infini sur la rive occidentale du lac Victoria Nyanza, et cette année un opuscule moins important, mais conduit d'une plume alerte, parfois même acérée, sur le fusil à répétition dans l'armée bulgare, qui l'ont mis tout à fait hors de pair. Découvrant un auteur humoristique, le public rit de bon cœur. La bande de trappes, qui s'était déplacée en nombre derrière Farid et Jamel, fut saisie d'une sympathie spontanée pour Norpois. Elle considérait qu'il n'était en rien dupe de ses manières d'être et de dire, qu'il fût démodé, que ses mots fussent surannés, qu'il apparût vieux jeu, semblait à la jeune équipe précisément un jeu qu'il maîtrisait parfaitement. Ses idées modernes, sa fidélité à la République, tant tenue par ses aïeux et pères, la séduisaient. Ils décrétèrent que le marquis était divin et qu'il fallait l'entendre au second degré. Pour Farid & Co., sa réputation de fade un temps révolu volait en éclats. Et puis, sa façon de s'exprimer paraissait assez jeune, plus chic que toc. Ils étaient bien décidés à se l'approprier. Fabrice sentit cette empathie au moment où il citait l'ancien ambassadeur. Le roi a eu la bonté de se souvenir. Sa Majesté, à l'ordre de qui je me suis naturellement empressé de déférer, etc. Comment juger conservateur un membre du Quai d'Orsay qui déclare « Une des manières de renouveler l'air, évidemment une de celles qu'on ne peut pas recommander, mais que le roi Théodose pouvait se permettre, c'est de casser les vitres. » Farid remarqua plus tard que Proust signale le sourire malicieux de Norpois évoquant le beau tapage du souverain oriental. Il n'en fallait pas plus pour que l'intéressé devint un modèle pour des révoltés. Avec son sang aussi bleu que ses yeux, il gagnait posthumément son passeport peu diplomatique pour la banlieue.